Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, l'ennui, source de créativité. Le sens de l'ennui. Et Martha Stewart, son maillot et l'agisme. Bonne écoute.
L'ennui, source de créativité. Un texte de Sylvia Galipo paru le 21 mai 2023 dans la presse. Est-ce vrai qu'il faut apprivoiser l'ennui pour être créatif? Que c'est dans les moments les plus insoupçonnés que naissent les meilleures idées? Combien y a-t-il vraiment d'Archimède dans la salle? On a posé la question aux principaux intéressés. Réflexion pas ennuyeuse en leur créative compagnie, en trois temps. L'ennui créatif. Accepter le vide pour le remplir. Hugo Bélanger, dramaturge, auteur et metteur en scène. L'ennui, c'est créer une disponibilité. L'ennui, c'est arrêter de penser. Je laisse les choses arriver. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le dramaturge, auteur et metteur en scène Hugo Bélanger, qui en connaît un rayon sur le sujet. La question de la créativité est au cœur de tous ses projets. Qu'on pense à son « Rêveur dans son bain », présenté ces jours-ci au TNM, ou encore à « Alice de l'autre côté », à la Maison Théâtre. Cela fait aussi des années qu'il y réfléchit. Précision. Évidemment, non, les nouvelles idées ne tombent pas du ciel. Sauf les pommes, peut-être, dans le cas de Newton. N'empêche, il faut se laisser surprendre, maintient celui qui en a passé, des heures, petit, à s'inventer des histoires, seul dans sa chambre. Rencontré dans un café de son quartier, le lendemain de sa première au TNM, le metteur en scène, qui ne s'ennuie pas trop ces jours-ci, se confie néanmoins généreusement sur cet art de ne rien faire, pour laisser les idées germer. Pas facile, dans notre monde actuel, archi-performant, convient-il, où les stimulations fusent de partout. On a peur de vivre le moment, il faut toujours qu'on fasse quelque chose, mais on ne laisse pas la porte ouverte à ce que les choses arrivent, nous dit Hugo Bélanger. Solution? Il faut se mettre en état de disposition. Il faut se mettre de l'espace dans la tête, accepter le vide, pour le remplir. Pour ce faire, très concrètement, Hugo Bélanger a pris l'habitude de prendre le train. C'est entre Montréal et New York qu'il a trouvé l'inspiration pour son Rêveur en 2017. C'est 11 heures de temps. Aller-retour, ça fait 22 heures. C'est comme un bureau mobile. Tu ne fais rien, il y a un côté hypnotique, le décor change et tu n'as pas le choix. C'est sûr qu'il y a le Wi-Fi, alors c'est dangereux, dit-il. Mais sinon, c'est comme une prison mobile. Ça m'inspire profondément. Mais est-ce vraiment de l'ennui ou plutôt une évasion, ose-t-on? C'est se donner du temps pour se poser des questions, répond-il. Quand je vais une semaine dans un chalet, seul, par exemple, je prends des marches, je n'ai pas le choix. Et qu'est-ce que tu fais quand tu marches? Tu discutes avec toi-même. Des moments où des liens se font et un sens émerge, parfois. La créativité, c'est un muscle. Il faut se mettre en état de disponibilité. L'obstacle est ton allié. C'est dans l'obstacle que tu trouves des solutions. Hors de ton confort, que tu trouves des solutions. Oui, un temps vide, ce peut être angoissant, mais c'est aussi riche. Ça t'oblige à te questionner. Et à trouver des réponses. Ou pas. Parce que non, les bonnes idées ne germent pas nécessairement tout le temps. Et ça aussi, il faut l'accepter. L'ennui stérile, quand l'ennui rend amorphe. Sarah A. Tremblay, artiste visuelle. Moi, quand je m'ennuie, je tombe amorphe. Ce n'est pas nécessairement créatif. » Quand on lui pose la question, Sarah A. Tremblay, artiste visuelle en lice pour le prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec, décerné plus tard à l'automne 2023, n'hésite pas une seule seconde. « Source de créativité, l'ennui ?»« Non, » tranche-t-elle. « Tout le contraire, en fait. » Et elle le sait. C'est sans doute pourquoi je fais dans les extrêmes pour être créative. Je me surcharge. Un exemple? En 2017, l'artiste a traversé à pied les 650 kilomètres qui séparent Matapédia du parc national Forillon pour documenter ce sentier des Appalaches dans le cadre des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. L'aventure a duré 6 mois. C'était un peu extrême, concède-t-elle, mais aussi drôlement créatif. Moi, ce qui m'ennuie, c'est la solitude. Est-ce que l'ennui et s'ennuyer, c'est pareil? Cette marche, faut-il le préciser, elle l'a faite avec son copain de l'époque, et si certains passages étaient sans doute plus ennuyants, photographiquement parlant, elle n'a pas trop eu le temps de s'ennuyer, non. Ça a peut-être l'air long, mais ton corps est tellement activé. Quand je suis sous-stimulé, je tombe dans un état amorphe et je manque de motivation, affirme Sarah A. Tremblay. Pour moi, l'ennui, c'est péjoratif, poursuit-elle. En même temps, on ne peut pas tout le temps avoir de la drive. Elle, ce qui l'allume, c'est plutôt la surcharge, donc, mais aussi l'urgence, quand elle se sent coincée dans le temps, par exemple. C'est exactement dans un tel contexte qu'elle a produit ses vidéos. Il faut travailler fort pour se reposer. Parce que s'il faut pour certains s'ennuyer pour créer, elle doit, quant à elle, travailler pour se reposer. J'avais 20 minutes entre la fin de ma journée et un cours de natation. C'était la fin de la journée. Il faisait beau. Il fallait profiter de ce qui se passe. Elle a du coup ici squeezé une séance photo d'objets disparates, des plantes, des fleurs, etc., dans sa cour, le tout sur fond de splendides couchers de soleil. Ça s'est passé parce que c'était squeezé entre deux affaires. Si j'avais eu toute la journée, ça ne se serait pas fait. C'est impulsif, dit-elle. Et ça, c'est de l'hyperactivité à son meilleur. Paradoxalement, elle le sait aussi, on ne prend jamais le temps pour s'arrêter. Est-ce qu'on peut prendre un break? S'enflamme-t-elle. Un peu, mais pas trop longtemps, par contre. L'ennui imposé, quand l'ennui est moteur et sujet de création. Isabelle Dumais, autrice et poète. Isabelle Dumais est contrainte à l'ennui, littéralement, et elle a décidé d'en prendre son parti. C'est aussi plus ou moins le sujet de tout ce qu'elle écrit. L'autrice et poète souffre en effet d'une maladie méconnue, l'encéphalomyélite myalgique, surnommée aussi syndrome de la fatigue chronique. Diagnostiquée il y a quelques années, elle doit passer le plus clair de son temps à l'ITER. C'est un peu ironique, dit-elle. Depuis 2018, je suis contrainte à m'ennuyer et je suis tout le temps dans des projets d'écriture et d'exploration ambivalentes sur l'ennui. Celle à qui l'on doit un recueil, prémonitoire, de poésie en 2012 sur le sujet, Un juste ennui aux éditions du Norrois, ose en effet une réflexion transgressive sur le sujet. Parce qu'elle le sait trop bien. L'ennui, c'est une expérience qui n'est pas gaie, c'est plate. C'est quelque chose de triste, de morne, une expérience négative, dit-elle. Ma façon de me révolter, c'est d'essayer de revirer ça de bord et de trouver un côté positif. Pas béatement, bien sûr, mais plutôt créativement. L'ennui devient mon moteur de création, affirme Isabelle Dumais. Elle s'explique, longuement, parce que, de toute évidence, elle a eu du temps pour y penser. Quand on nous contraint dans ce temps long où il ne se passe rien, dit-elle, on se sent empêché de vivre intensément comme on le voudrait. On a l'impression de sous-exister. Il y a une sensation de vide, une impression de gaspiller sa vie. Un je ne sais quoi d'insupportable, quoi. Cela étant dit, enchaîne-t-elle, on peut aussi concevoir l'ennui autrement. S'ennuyer, c'est chiquer du temps, dit-elle, citant ici le philosophe Émile Cioran. On peut s'amuser avec le temps, extrapole l'autrice, voir ça comme une pause qui va être bénéfique. Pour le poète ou le créateur, cela devient une chance. On redevient comme un enfant, sur la banquette arrière en voiture, à regarder par la fenêtre, s'ennuyer, à faire des trucs inutiles comme un gamin. On se permet de rêvasser. Aurait-elle été poète sans cet ennui imposé? C'est difficile à dire. C'est l'œuf ou la poule? Est-ce parce que j'ai une âme de poète que je m'ennuie? Est-ce que j'ai une nature contemplative? La vie est bien ironique. N'empêche, conclut-elle, si on acceptait collectivement de s'ennuyer, peut-être qu'on aurait plus de calme poétique dans le monde. À méditer, dans un moment d'ennui. C'était « L'ennui, source de créativité », un texte de Sylvia Galipo paru le 21 mai 2023 dans la presse. Le sens de l'ennui, un texte de Léa Carrier paru le 21 mai 2023 dans la presse. Sans intérêt, l'ennui? Pour certains, c'est un sentiment dénué de sens, synonyme de se morfondre ou de perdre son temps. L'ennui est un moteur de changement, plaide toutefois le philosophe américain Andreas Elpidoro. Fondamentalement, je pense que l'ennui est un sentiment d'insatisfaction. Nous l'éprouvons lorsque nous ne sommes pas satisfaits de notre situation, de ce que nous faisons, lance-t-il en entrevue. Professeur à l'Université de Louisville au Kentucky, M. Elpidoro étudie le concept de l'ennui depuis plus d'une décennie. C'est presque un cliché de le dire. Notre intolérance à l'ennui serait le fait de notre époque, caractérisé par la dictature de l'instantanéité et du divertissement à gogo. De plus en plus, certains estiment qu'il faut réapprendre à l'apprivoiser. Parmi ses nombreuses vertus, l'ennui stimulerait la créativité, favoriserait la concentration. Andreas Elpidoro n'est pas de l'école de ceux qui pensent qu'il faut forcer l'ennui. Parfois, il se demande même si on n'en fait pas un portrait un peu trop positif. Je ne pense pas que les gens devraient s'ennuyer. Je pense que c'est un outil utile dont nous disposons en tant qu'êtres humains et qui nous informe lorsque quelque chose ne va pas, selon Andreas Elpidoro. Selon moi, l'important est moins de se laisser aller à l'ennui que de savoir pourquoi on s'ennuie, ajoute l'auteur de l'essai Propelled, How Boredom, Frustration and Anticipation Lead Us to the Good Life. L'ennui, le mal de notre époque? Quand ressentez-vous le plus souvent l'ennui? À l'arrêt d'autobus? Dans la file à l'épicerie? Assis devant la télévision, blasé par l'abondance de films offerts sur les plateformes numériques? On a parfois l'impression que l'ennui serait une expérience contemporaine, que nos ancêtres, qui survivaient plus qu'ils ne vivaient, n'avaient pas le luxe de se tourner les pouces. Certains affirment que l'ennui tel que nous le ressentons aujourd'hui est apparu au 18e ou au 19e siècle, note M. Elpidoro. C'était le début de l'industrialisation et l'émergence du temps libre, pour certains du moins. Mais le professeur Andreas Elpidoro ne partage pas cet avis. Je pense qu'il y a quelque chose d'humain et de fondamental dans le fait de se retrouver dans une situation qui n'est pas très intéressante ou qui ne nous engage pas, dit-il. Au IVe siècle, les chrétiens qui s'installaient dans des monastères afin de se dévouer à Dieu parlaient d'akédia, indifférence, négligence en grec ancien, dont les descriptions de l'époque s'apparentaient à l'ennui tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'histoire de l'ennui est très riche, et je pense que cela appuie l'idée selon laquelle il s'agit d'un sentiment auquel les gens ont dû faire face au fil de l'histoire, souligne M. Elpidoroux. Certes, le concept d'ennui s'est exprimé de manière différente au fil des époques. L'acédia a été supplantée par la paresse, l'un des sept péchés capitaux. Plus tard, il prendra le nom de mélancolie, exemplifie le philosophe. L'ennui évolue avec la société. Aujourd'hui, le rythme de vie est différent. Je pense qu'il y a une transformation évidente de ce qui suscite l'ennui et de la façon dont nous gérons l'ennui, résume-t-il. Un problème autant qu'une occasion. Plusieurs perçoivent l'ennui comme une perte de temps, mais cette impression change tranquillement, remarque Andreas Elpidoroux. Selon lui, un individu s'ennuie lorsqu'il souhaite s'engager avec le monde, mais n'y parvient pas. Cet état de lassitude, en apparence sans intérêt, survient pour une raison, insiste-t-il. Il traduit généralement un sentiment d'insatisfaction ou de mécontentement lié à sa situation, comme son couple ou son emploi. Comment un individu répondra à l'ennui dépendra de sa situation et de ses ressources, nuance M. Elpidoroux. Imaginez quelqu'un qui travaille de 8 à 10 heures dans un emploi qui n'est pas gratifiant. Une fois rentré chez lui, il a besoin d'un exutoire. Il peut avoir envie de rester assis sans rien faire, de boire. Il se peut qu'il ne soit pas créatif ou qu'il n'utilise pas son temps de manière proactive, souligne Andreas Elpidoroux. Lorsque sa situation le permet, il faut se poser des questions sur ce que l'ennui essaie de nous dire, insiste le professeur. À l'inverse, chercher une échappatoire dans les réseaux sociaux, comme beaucoup de gens le font, peut seulement reporter le problème à plus tard. Par la faute des technologies, le philosophe craint que nous perdions une partie de notre capacité à s'engager ou à trouver le sens d'une situation par soi-même. L'ennui est la perception d'une crise de sens, affirme Andreas Elpidoroux. Il vous oblige à trouver un sens. C'est donc un problème, mais c'est aussi une occasion. C'était « Le sens de l'ennui », un texte de Léa Carrier paru le 21 mai 2023 dans la presse. Martha Stewart, son maillot et l'âgisme. Un texte de Nathalie Collard et Alexandre Sirois paru le 21 mai 2023 dans la presse. Martha Stewart vient de battre un record. Elle est devenue la personnalité la plus âgée à se retrouver en une du numéro spécial maillot de bain du magazine Sports Illustrated. Aberration ou signe de progrès? Nos deux éditorialistes en débattent. Alexandre Sirois. Quel coup de marketing formidable pour le magazine Sports Illustrated. Demander à la populaire Martha Stewart, 81 ans, de poser pour la une de son numéro spécial maillot de bain. Résultat? Mission accomplie. Tout le monde en parle. La question qui tue? Faut-il pour autant s'en réjouir? La réponse est forcément complexe. Mais d'emblée, je réponds oui. Pour la simple et bonne raison que c'est un pied de nez fait à une industrie médiatique où les personnes âgées sont sous-représentées et trop souvent associées à des stéréotypes négatifs. Nathalie Collard. Excellent coup de marketing, en effet, pour le magazine et pour Martha Stewart, qui, visiblement, s'amuse beaucoup. Tant mieux pour elle. C'est son choix et je le respecte. Par contre, cette photo ne me réjouit pas du tout. On remplace les stéréotypes négatifs des femmes âgées par un autre stéréotype, la femme objet de désir. Je vois un magazine qui nous dit « Ne lâchez pas, mesdames, soyez sexy jusqu'au cercueil, c'est là votre valeur suprême. Les femmes peuvent-elles vieillir en paix sans cette pression constante d'être désirables? Alexandre Sirois. Entendons-nous, ce numéro spécial annuel est un concept complètement dépassé et on comprend bien que les responsables du magazine cherchent par tous les moyens de justifier sa pertinence. Mais dans ce contexte, choisir Martha Stewart ou, comme l'an dernier, la septuagénaire Mae Musk, c'est selon moi tirer le meilleur parti de la situation. Généralement, je suis motivé par la paix, mais cette fois j'étais motivé par l'idée de montrer à tout le monde qu'une femme de mon âge peut encore être belle et se sentir bien, a dit Martha Stewart en entrevue dans le Wall Street Journal. D'autres aînés ont certainement envie que les médias leur accordent davantage d'attention, mais on ne leur en offre pas assez souvent l'occasion. Nathalie Collard. Intéressant que tu nommes Mae Musk, une autre femme superbe qui a les moyens de se payer des soins de luxe et des vêtements somptueux. Je ne remets pas en question les motivations de l'une et de l'autre à vouloir exposer leur beauté. Je le répète, c'est le sous-texte qui me dérange. L'idée que cette page couverture traduise une évolution des mentalités est complètement bidon. Quelle sorte de beauté valorise-t-on ici? Un pastiche de la femme de 20 ou 30 ans en maillot de bain. Or, la beauté à 80 ans est différente, et elle doit être célébrée, elle aussi. Je connais plein de femmes âgées qui sont magnifiques sans être du matériel à Sports Illustrated. Ce sont ces femmes qui sont invisibilisées dans la société. Je ne vois pas en quoi cette photo de Martha Stewart contribue à rendre la vieillesse plus acceptable. Je crois au contraire qu'elle met une pression insoutenable sur les femmes qui reçoivent le même message depuis l'âge de 10 ou 12 ans. Hors de la séduction, point de salut. Alexandre Sirois. Je ne te contredirai pas à ce sujet. Et c'est ce qu'on reproche aussi, avec raison, à bon nombre de magazines féminins. Je persiste à croire, cependant, que cette opération de relations publiques rend la vieillesse plus visible. J'avais interviewé Jeannette Bertrand au sujet de la vieillesse, avec notre collègue Judith Lachapelle, pour un livre d'entretien avec des octogénaires et des nonagénaires, 80, 90, 100 à l'heure. Elle a, entre autres, déploré que les aînés n'occupent pas une assez grande place dans le paysage médiatique au Québec, et elle se disait convaincue qu'il nous manque ici des modèles d'octogénaires actifs. Ce n'est peut-être pas un hasard si c'est aux États-Unis qu'on a songé à une femme de 81 ans pour cette séance photo. On parle d'un pays où le président, Joe Biden, est âgé de 80 ans et son rival le plus sérieux, Donald Trump, aura 77 ans le mois prochain. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un pied de nez à l'âgisme. Nathalie Collard. Je suis contente que tu cites l'exemple de deux hommes âgés qui ont été tous deux présidents des États-Unis, un exemple criant du deux poids, deux mesures qui règne dans notre société. Quand ils avancent en âge, les hommes sont perçus comme des sages. On dit qu'ils se bonifient, on célèbre leur expérience et on leur confie les rênes du pouvoir. Les femmes, elles, perdent de leur valeur en vieillissant. On les met au rancard. Je suis d'accord avec Jeannette. On manque de modèles positifs de personnes âgées, surtout des femmes. Des octogénaires allumés, impliqués, qui mordent dans la vie, il en existe plein. Et avec le vieillissement de la population québécoise, on en verra de plus en plus. Peut-être qu'alors la vieillesse cessera de faire peur, et que les femmes n'auront plus besoin de la conjurer pour pouvoir être appréciées telles qu'elles sont. Alexandre Sirois. La vieillesse ne cessera probablement jamais de nous effrayer. Après tout, prendre de l'âge, qui voit ça d'un bon œil? Mais je souhaite, comme toi, que les aînés d'ici soient plus visibles, qu'on les invite sur toutes les tribunes et qu'ils soient de tous les débats. Et j'ajouterai qu'on les traite avec plus de déférence. L'âgisme est un vilain défaut. Je suis encore embarrassé par la façon dont, au début de la pandémie, on a infantilisé tant d'aînés. Le coup d'éclat de Martha Stewart nous permet de débattre de nouveau de ces questions fondamentales. Nathalie Collard. Oui, au moins on en parle. Mais ce qui me désole, c'est que ces discussions ont toujours le même déclencheur, l'apparence des femmes. L'an dernier, c'était les cheveux gris de Lisa Laflamme. Cette année, c'est le maillot de bain de Martha Stewart. Et en filigrane, ce grand soupir de soulagement. Ouf, elles sont encore présentables pour leur âge. Moi, mon inspiration, je la trouve ailleurs. Chez les femmes qui sont engagées, qui ont des choses à dire. Tu sais quelle femme je mettrais à la une d'un magazine si j'étais rédactrice en chef? Suzanne Loisel et Marie-Paul Lebel, qui se sont battues pour les locataires de la RPA du Mont-Carmel. Elles ont été chaudement applaudies lors de leur passage à Tout le monde en parle et tout le monde était impressionné par leur vitalité et leur courage. Ça me rassure pour l'avenir. C'était Martha Stewart, son maillot et l'âgisme, un texte de Nathalie Collard et Alexandre Sirois paru le 21 mai 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.